Bonjour et bienvenue au balado Soirée Peinture. On tient à remercier la BIS, fier commanditaire du podcast. Aujourd'hui, épisode 64, David nous éduque. David nous éduque sur quelques trucs aujourd'hui. On en avait quand même pas mal à dire, là. Mais en gros, on vous parle des nouvelles éditions. Oui, aujourd'hui, on jase des nouvelles éditions. Les éditions, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que ça se peut en avoir trop? À quoi ça sert une nouvelle édition? Dans les dernières années, à travers les différents jeux, il n'y a pas juste Games Workshop. Les nouvelles éditions, y en a-tu eu tant que ça? Qu'est-ce que ça l'a donné pour d'autres compagnies? C'est quoi les risques? Donc, on fait un petit tour d'horizon de tout ce qui est à travers nos opinions, les expériences et les données qu'on a autour de nous. Donc, sur ce, sans plus attendre, bonne soirée peinture!
David nous éduque.
Fait que David, épisode David nous éduque, épisode 64, j'ai envie de te dire, t'es-tu dans le mood?
Oh oui!
Éduque-nous.
D'accord.
En passant, si c'était weird dans vos oreilles, on s'excuse, il est tard.
Oh!
Ok, on s'excuse pas d'abord.
Bon, écoutez, avant d'aborder mon sujet principal, j'ai deux petits apartés à faire.
Oh!
Le premier, en fait, je vais changer l'ordre de mon document. Attends. Le premier.
Non, non. Ok, vas-y.
Oh, surprise. Tout est shaké. Je vous ai déjà parlé, entre autres dans l'épisode de Va jouer à un jeu de rôle, je vous ai parlé de la scène de tournoi, puis comment, dans ce que j'avais trouvé, c'était assez récent. Ben, en discutant avec Graham,
ouais.
J'ai appris qu'il jouait dans des tournois à la fin des années 70.
Lui?
Ta-ta-ta. Oui.
Ouais.
Non, mais c'était intéressant, mais parce que je voyais ça plus récent que ça quand même. Mais
il existait dans les années 70, c'est question?
Non. Ah, il y avait des tournois de Wargame dans les années 70. Mais ce qui est fascinant quand il m'en parlait, c'est que c'est surtout, ça se faisait un peu toutes les époques, mais surtout les joueurs qui jouent des jeux d'antiquité.
Mm.
C'est de la voyons, j'ai juste le mot anglais qui me vient, la crowd qui joue de l'Antiquité, c'était des gens qui jouaient beaucoup à des tournois. Là où les joueurs plus modernes, donc Deuxième Guerre mondiale ou napoléonien ou Guerre de 7 ans, etc., eux jouaient plus historique.
Oh.
Fait que la ligne de division, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les joueurs narratifs et les joueurs compétitifs, était, puis ça, il y en avait un peu partout, là, mais c'était surtout les périodes étrangement. Ça m'a fasciné, j'avais envie de...
C'était quoi qui faisait en sorte que c'était plus d'un bord que de l'autre, que c'était compétitif? C'était-tu les systèmes de jeu qui étaient différents, qui...
Aucune idée, c'est de l'information que je serais très heureux de découvrir. Ça, pour en apprendre plus, mais je tenais à faire la réaction, parce que
David,
c'est super intéressant.
Je t'envoie l'information, fait, je suis curieux, tu m'as accroché, là, mm-hmm. Maintenant tu as des responsabilités, éduque-moi, bâtard!
Parce que c'est ta job de nous éduquer.
Ben oui, ça sent bien.
C'est bon.
Deuxième aparté, j'ai une proposition terminologique pour vous.
Ah, oh, j'ai peur.
Ah ouais.
Terminator, là.
J'ai mal.
Lundi dernier,
ouais.
On jasait entre nous de la nouvelle version du jeu Epic.
Ouais.
Puis Kevin, avec son mépris habituel, a dit « Moi, je trouve que ce jeu-là, à cette échelle-là, c'est pas Epic. » Ah, il a passé son flip souris, là.
Ben oui, il est 10h30 quand on enregistre, j'ai pas encore soupé, puis lui, il me sort mon jeu de mots le plus épique du monde pendant que je mange du riz et du poulet. J'ai pas aimé tout faire avec.
Fait que...
Merci, David, ça me touche.
Mais donc, le jeu a quand même comme nom épique.
Oui.
Puis, Warlord Games a aussi sorti des jeux à l'échelle 13,5 mm des pieds aux yeux. Et puis, nomme sa catégorie de jeux de cette échelle-là Epic Battles. Il reprend l'idée d'Epic. C'est des anciens Game Workshop, là, c'est sûr qu'il y a une lignée là, entre les deux. Fait que ça, quand Kevin a dit ça, ça m'a fait réfléchir, puis ça a spiné dans ma tête. Puis, non, mais quand même.
Des fois, c'est des affaires qui t'affectent.
Mais dans ton intervention, même si là tu viens de me dire que c'est juste un jeu de mots, moi je pensais qu'il y avait une réflexion plus profonde. Mais...
Non, mais attends, là tu prends pour acquis que je fais des réflexions. Là. Il est là, le travail.
Mais.
J'ai-tu fait un jeu de mots? Oui. Y avait-tu une pensée en arrière? Oui. Mais ça, tu ne sauras jamais.
Mais tu trouvais, dans le fond, en regardant puis en lisant un peu là-dessus, tu utilises le mot d'une façon très proche de son sens original. C'est-à-dire qu'il raconte, bon, en vers, c'est pas vraiment le cas, mais qu'il raconte une action héroïque.
Oui.
L'Iliade, la chanson de Roland.
Oui, qui sont c'est des fait volontaire. C'est fait volontaire, sauf pour Roland. Mais oui, c'est...
ouais, la chanson de Roland, non? C'est un beau scénario en plus à faire.
Ça, c'est loin, mais on en reparlera un autre jour.
Par contre, en anglais familier, le mot épique a pris le sens récemment de qui va au-delà de l'ordinaire, surtout en dimension et en portée. Fait que okay. Ça recoupe un peu l'utilisation de Game Workshop et de Warlord pour parler d'un jeu qui permet de faire des plus grosses batailles parce que les figurines sont plus petites. Donc, tu peux en mettre plus sur une plus petite, sur une table de 6 par 4, bref.
Okay.
Épique, ça fit dans ce qu'ils veulent faire là-dedans, puis ça a un sens plus récent. Donc, voici ce que je propose. Dans le domaine du jeu de figurines, quand on parle d'une échelle qui prend en compte la taille des figurines en lien avec la taille de la bataille, Epic désigne les jeux où le focus est sur de vastes armées qui s'affrontent. Et je vous propose d'utiliser à partir de maintenant le mot héroïque pour désigner les jeux où le focus sont sur les individus ou les escouades et leurs faits d'armes.
Donc, mettons, Warhammer 40 000, Age of Sigmar, Lord of the Ring, Kill Team, Warcry, ça serait du héroïque.
Ouais.
Okay. Ben, je serais prêt à être d'accord avec toi si c'était pas du fait que j'aimais mieux ma définition de épique, puis qu'elle est supportée par l'histoire et la littérature.
T'as un bon point.
Ben bon, tu vois, si tu choisis la langue au-delà de l'histoire, ça t'appartient. Moi.
Puis quand j'ai écrit ça au début, j'ai marqué, par exemple, épique qui désigne, qui ont des figurines de moins de 20 mm qui visent la simulation de grosses batailles.
Ouais.
Puis j'avais dit, puis le pour héroïque qui ont des figurines de plus de 20 mm. Mais là, je me suis dit, non, c'est un piège.
Ouais,
parce que tu vas pourrais pas avoir un jeu avec des petites figurines, mais où t'as, pour une raison ou pour une autre, t'as un héros puis deux, trois escouades qui font la même chose que dans Warhammer 40 000, par exemple.
Puis tu pourrais probablement avoir des games de la grosseur de Inquisitor qui sont faites de façon épique.
Oui. Ou la...
C'est une blague. Je ne pense pas que personne qui joue des games... OK, on va faire le siège de Terra avec des figurines de la grosseur des figurines d'Inquisitor 54 mm, d'accord?
Mais sinon, la bataille qu'on avait parlé de l'année passée de Jervis Johnson au Danemark,
oui,
de Warhammer 40 000, oui, dans un gymnase,
oui,
ou la recréation de Waterloo avec du 28 mm, mais dans un autre gymnase d'école en Angleterre. Là, c'est des milliers de figurines, même 28 mm. Voilà.
T'as encore trouvé le moyen de plugger Waterloo, ça me sidère.
Écoute.
Puis ça finit toujours à Waterloo.
Oui, c'est comme un talent caché, genre. Je comprends pas. Moi, je pense qu'il fait ses chroniques à l'avance pour pouvoir trouver une façon de plugger Waterloo comme il sait, là. Il nous dit pas, mais il plug. Il sait. Ah.
La théorie est intéressante.
Mais ouais, ça a du sens. Ben moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on peut utiliser héroïque si tu veux entre nous autres. Là, je pense que c'est intéressant comme proposition.
Et c'est pas un impératif. Là. Pour moi, c'est plus.
J'aimerais bien ça que tu ailles voir les gens du Wargame. Tu fasses comme
ouais, c'est ça.
Est-ce que j'avais utilisé le mot.
J'avais du fun à y penser, puis pour ben moi, c'était comme « Ah non, mais dans le fond, c'est cool, nos parties, c'est héroïque, dans le fond, ce qu'on essaie de faire. » Mais c'est pas...
Ben,
j'ai eu du fun.
Mais t'as raison que c'est vrai que ça part quelque part de... Mettons, plus personnellement, moi, ce qui me fait triper dans le jeu de figurines, c'est la création d'histoire, puis d'épopée, un peu comme les 12 travaux d'Hercule, ou...
Ouais.
Tu sais, c'est à quel point mes héros et ses accompagnateurs l'aide dans sa quête. C'est un peu ça, moi, qui me fait triper. C'est, bon, c'est aussi mon passé de donjon dragonesque, mais c'est aussi mon genre de littérature. T'sais, mettons, souvent, moi et David, on en a parlé là, entre nous deux, là, en dehors du podcast, mais mettons, la différence entre Viking et Last Kingdom, pour moi, elle est là. Mettons, dans Last Kingdom, il y a vraiment quelque chose de très héroïque dans tout ce qui est présenté là-dedans. Malgré tous les personnages secondaires qui sont là, c'est qui le personnage principal. La preuve, c'est lui qui fait la narration de sa propre histoire avant tant. Fait que si t'as pas compris, je veux dire. Alors que dans Viking, on te présente plein de personnages différents, un peu comme une épicerie, puis tu choisis celui que tu préfères, mais c'est un peu comme une épopée d'un peu tout le monde. Fait que on te présente un univers quasiment plus qu'un héros. Est-ce que je me trompe?
Tout à fait.
Ouais. Moi, j'ai beaucoup moins accroché sur Viking. Parce que justement, les personnages qu'on me présentait, j'étais comme, OK, toi ou un autre, whatever. Sauf pour la femme, que elle, je ne me rappelle pas de son nom, mais.
Je ne me rappelle pas de la Guerta.
Ah, elle, my God, ouais, j'aurais pris une série juste d'elle. J'étais comme, enlevez toutes les autres, ils ne servent à rien. J'en ai rien à battre. Gardez juste elle, faites-moi une série sur elle, je garderai juste elle. Bon, il y a sûrement des gens qui vont vouloir me détester dans les commentaires.
Ce que... Encore un épisode sur Viking.
Ah, je pense que ça pourrait valoir la peine.
Ça serait bien.
Mais ouais, mais t'sais, pour moi, Last Kingdom, c'est ça. C'est une épopée héroïque d'un héros ou des héros. C'est comme ça que j'approche mes games de Warhammer aussi. C'est pour ça que Crusade fonctionne tellement bien pour moi dans ma tête, c'est que c'est facile de choisir mon héros comme étant mon Warlord ou le Second in Command ou les deux. C'est comme ça que je l'approche. Même quand on fait des grosses games, tu sais, des games d'apocalypse, mettons. Là,
oui.
Ben, ça reste que c'est basé autour de ça. Pis c'est un petit peu ça qui m'a frappé quand j'ai vu le scale de Epic au niveau des infanteries. J'ai fait genre, ah, tu vois, je me vois pas raconter d'histoire de héros avec ça. Comme direct là, je savais que ma ligne venait d'être coupée, genre. Pis j'ai fait, OK, si je veux jouer à ce jeu-là, faut que je l'approche d'une autre façon. Je peux pas y aller comme je fais d'habitude. Puis c'est pas pour rien que j'adore autant Warcry, là.
Ouais.
Warcry ou Battle Company, pour moi, c'est. J'aimerais ça dire Kill Team aussi, mais j'ai pas encore trouvé la façon dont Kill Team pouvait vraiment répondre à mes besoins. Mais peut-être un jour. Mais Warcry, pour moi, remplit ça. C'est vraiment une épopée de un héros pis sa Warband. Pour moi, t'es tellement direct dessus que c'est dur de faire mieux. Là. C'est pas pour rien que j'arrête pas de dire que pour moi, Warcry, c'est le meilleur jeu que Games Workshop a fait. Ça, c'est moi. Puis c'est encore une fois, il y a sûrement des gens qui ont le goût de me détester dans les commentaires. Puis c'est bien correct. Mais pour moi, c'est Warcry, c'est le meilleur jeu qui a été fait par Games Workshop. Lord of the Rings, vraiment pas loin d'elle. Mais ça, c'est moi. Fait que je m'excuse, David. Je voulais pas prendre trop de place. Mais...
C'est bien correct.
Tu voulais mes réactions, right?
Je voulais tes réactions, oui.
On sent te cracher ton poulet et ton riz, c'est bon.
J'ai clairement. Pour vrai, je vais pas vous le cacher, il y a eu du riz qui t'a volé sur mon clavier, il a fallu que je le nettoie. Fait que c'était pas un fake, là. Fait que je vais continuer. Tu
peux juste sur. Aujourd'hui, je voulais vous parler des éditions. Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'il peut? Mon titre clickbait, là, est-ce qu'il peut y en avoir trop? C'est clickbait.
Ah, attends. Fait que là, ce que tu disais tantôt, c'était juste ça, les apartés?
Ouais.
Hey, on t'est même pas rendu dans l'éducation, encore?
Non.
Et si boire que j'étais pas prêt?
Et là là.
OK. Ben, go, toi, vas-y.
Fait que, alors, on parlait...
Dans l'intro, oui.
Exactement. Oui. Précédemment, on a parlé de la 10e édition. Puis comme, ça, tu sais, ça frappe. 10 éditions d'un jeu. Fait que, tu sais, je me questionnais. Hey, de mémoire comme ça, je connaissais pas d'autres jeux qui sont rendus à 10 éditions. Peut-être qu'il y en a, là, si vous les connaissez, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Mais ça me fascinait un peu. Fait que je me suis dit, je vais poser la question sur notre canal texte Discord du Club de jeux de figurines historiques de Montréal. Je me suis dit, ah, il y a des gens là-dedans qui ont pas mal d'expérience. Et bon, sûrement pour m'aiguiller. Puis je leur ai demandé, hey, connaissez-vous des jeux qui se jouent encore puis qui ont beaucoup d'éditions? Ça a donné vraiment ça a généré une discussion super intéressante avec Graham, Cam, Yannick, John et Gabriel sur le sujet. Donc, on est allé partout, là. C'était vraiment intéressant. Si vous allez sur le groupe Discord, vous allez pouvoir lire ça. Donc, on a commencé à discuter de ça. Puis à la base, on se doute fortement qu'il y a un intérêt financier pour les compagnies à sortir des nouvelles éditions parce que ça génère des ventes. Puis il y avait l'exemple, entre autres, de Gary Gygax de TSR sur Donjons et Dragons, qui disait qu'au début, quand ils ont sorti des suppléments, quand c'était des suppléments d'histoire, ça ne marchait jamais aussi bien que quand ils faisaient des suppléments de règles qu'ils rajoutaient au jeu. Clairement, il y a un intérêt financier du côté des compagnies. Puis Cam, je trouvais ça intéressant, il a amené l'exemple des manuels scolaires aussi, surtout à l'université, où le prof, parfois, qui est aussi l'auteur, va exiger la dernière édition du livre.
Ah, je te confirme!
Hein? Puis, dans les cas de... Il continuait avec ça. Dans le cas des jeux qui ont un gros marché avec beaucoup d'événements, des gros événements de jeux organisés, là, organized play, on veut aussi que ce soit accessible aux nouveaux joueurs. Ce qui fait que l'édition la plus récente, donc celle qui est encore sur les tablettes, va sûrement être mise de l'avant. Un autre point qui a été souligné par Cam, que je trouvais super intéressant, le changement d'édition, ça peut être un pari. plusieurs jeux ont perdu leur momentum après le changement d'édition. Puis là, lui me donnait l'exemple d'X-Wing, War Machine, puis Infinity. Infinity, je ne sais pas trop, parce que je n'avais pas l'impression que ça a perdu tant de momentum que ça. Mais X-Wing, je sais qu'après la deuxième édition, ça a battu de l'aile un peu. Puis War Machine, on avait entendu l'histoire.
Attends. Oui. T'as-tu dit X-Wing, ça battait de l'aile?
Oui. T'as même pas voulu.
Ok, non, mais attends. Non, mais j'ai vu que tu l'as fait sans le vouloir.
Comme, j'ai vomi dans ma bouche. Moi, je l'ai mis dans ma bouche, puis toi, tu passes par-dessus ça comme ça.
Mais non, c'est ça. Genre, il s'en rend même plus compte, mais il est en train de faire des jeux de mots d'un next level. Ouais. Là. Je suis sûr que les auteurs, les autrices étaient genre comme. C'était un jeu de mots, ça. Ok, non, mais il va rire à un moment donné, comme c'était un jeu de mots,
ça. Eh non. War Machine, troisième édition, on se rappelle l'histoire, c'était War Machine qui se positionnait beaucoup comme le jeu compétitif. C'était avant la 9e et la 8e édition de 40 000,
ouais.
Donc avant le réveil du dragon, comme certains disent. Fait qu'il avait réussi à aller chercher beaucoup de traction avec ça. Puis avec la troisième édition, ils sont allés vite, si j'ai bien compris l'histoire. Puis oups, il y a eu une réaction négative de la part de leur base à leur troisième édition par rapport au fait que bon, c'était plus compétitif, ça n'a pas été bien relu, en tout cas, etc., etc. Fait que le changement de règle aurait été trop vite. Fait que donc, il y a vraiment cette idée-là que ça peut être un pari puis tu peux te planter avec une nouvelle édition.
Ben oui. Clairement, mais bon, si je peux me permettre une
petite partie de mon
tu voulais des réactions, fait que...
Mm-hmm. Ben, pas juste de toi, là, de Phil.
J'espère.
On t'entend assez de même.
Hein? Ouais,
moi, j'étais encore au jeu de mots. Là. Moi, je l'avais compris, le jeu de mots, puis il m'a traumatisé.
Il y a aussi une approche du changement d'édition qui n'est pas du tout la même. Mettons, Games Workshop ne demande pas l'approbation de ses joueurs et de sa communauté pour savoir si ça demande une nouvelle édition ou pas. Ils font un changement d'édition, puis ils te le présentent comme étant la nouvelle meilleure édition du monde. Même si ça fait 4 éditions d'affilée qui te promettent la même affaire. Ce qui fait en sorte qu'ils te promettent quelque chose de glorieux, puis ils s'assurent de pouvoir deliver au niveau du hype le plus possible, puis ils te changent des affaires. Mais il faut se rappeler qu'il y a certaines éditions qui étaient des changements qui étaient tellement minimes. Tu sais, le changement entre le 6 et la 7, là. Le changement entre la 8 et la 9, là. Je veux pas dire que c'était un peu comme... T'aurais pu pas dire que c'était un changement d'édition puis juste faire un chapter approve puis on aurait passé à autre chose. Oui. Mais ils ont dit que c'était un nouveau changement d'édition. C'était motivé par des bonnes raisons puis c'était fait pour accomplir tel objectif. C'est bon pour toi parce que telle raison. Puis comme c'est présenté d'une façon épique... T'embarques dans le bateau à quelque part, puis tu sais que ça va répondre à tes besoins, puis ta crowd plus compétitive, ben, à quelque part, elle aime le changement, puis elle l'aime pas, là. Mais les joueurs qui fitent dans ce niveau compétitif-là, qui aiment ce qui est présent en ce moment, sont pas nécessairement contents, mais ils vont apprécier le challenge qu'est une nouvelle édition. Ceux qui aiment pas la situation actuelle au niveau compétitif, ben, ils vont être heureux d'un changement d'édition parce qu'ils vont espérer que ça va rétablir une certaine balance. Fait qu'il y a toujours le rêve d'une balance, mais sans qu'on te demande ton approbation et ton avis. Fait qu'à un moment donné, tu suis. That's it. Alors que je pense que l'approche que War Machine a eue, c'était un peu comme on demande votre avis, on vous donne quelque chose, puis paf, on le change complètement tout d'un coup, puis t'es comme, non, mais attends, c'était même pas ça qu'on voulait.
Ouais.
Et là, quand tu te positionnes comme la personne qui écoute sa communauté, puis qui prend leurs critiques, puis qui veut leur faire le jeu le plus compétitif et balancé possible, tu te mets déjà dans une position où est-ce que c'est pas évident. Et quand tu es une plus petite compagnie, comme Privateer's Press, puisqu'on va se le dire, là, jamais Privateer's Press a même été proche de Games Workshop en termes de compétition, je m'excuse. Mais Games Workshop peut se permettre de faire des erreurs. Au bout de la ligne, ils ont tellement une grosse fanbase de gens qui font pas juste de la compétition, qui vont se retrouver à faire de l'argent pareil. Puis à un moment donné ou à un autre, ils vont ajuster des trucs, ils vont faire en sorte que les gens vont revenir et vont faire des trucs. Ça va être correct. War Machine n'a pas ce coussin-là nécessairement.
Mm.
Puis dès qu'ils perdent des plumes, pour faire un jeu de mots avec X-Wing, plume, elle, tu comprends?
Oh.
Ouais, je sais, fallait que je l'explique. C'était bon, je t'avoue au jeu. Dès que tu perds des plumes, ça paraît deux fois plus que Games Workshop. Games Workshop, il y a toujours du monde pour pouvoir parler de Games Workshop. Il y a toujours du monde pour triper sur Games Workshop. Tu vas le voir partout, ces médias sociaux. Games Workshop, ils en parlent à tous les jours de leurs propres produits, à tous les jours. 4 fois par jour. Fait que tu fais partie du loop, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Alors que War Machine, bien vite, si tu sors de là, tu pourrais quasiment avoir l'impression que le jeu, il roule ou il roule plus. Ben, c'est peut-être mon impression personnelle, peut-être qu'elle est biaisée, je sais pas. Puis ça veut pas dire que j'aime pas War Machine, mais c'est vraiment pas ça, là. C'est vraiment juste que je...
Parce que tu touches à un point important, je pense que Game Workshop, c'est un behemoth. En 2017, ce qu'on m'avait dit dans l'industrie, c'est 80% du marché, puis c'était une époque où War Machine, Privateer Press, c'était gros.
Ouais.
Le gars m'explique, il dit, puis Privateer Press, il fait partie du 20% avec tout le reste.
Ouais.
Fait que je pense qu'il y a la capacité là, puis là, ça a été mentionné aussi dans la discussion, ils ont enligné leur stratégie sur le recrutement.
Ouais.
Ils sont tout le temps en train de recruter du monde, ce qui fait que des gens qui peuvent décrocher à une édition, puis il y en a, là, il y a des groupes de Roadhammer, il y a des groupes qui jouent juste la 6e, des groupes juste la 5e,
ben oui,
etc., etc. Et ça ne change rien parce que Game Workshop, il remplace ce monde-là par les gens qui recrutent. Parce qu'ils ont la capacité, comme tu disais, parce qu'ils sont assez gros pour le faire, là où les autres compagnies n'ont pas atteint ce niveau-là encore, ou en tout cas, pas rendu là. Parce que, encore une fois, c'est ça, quand je pensais à ça, si je cherchais c'est quoi les autres jeux qui ont autant d'éditions, puis dans les grosses compagnies en ce moment, il y en a beaucoup qui sont très jeunes. C'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup d'éditions parce qu'ils sont très jeunes.
Ben oui. Je serais curieux, David, si un jour on pourrait faire un épisode David nous éduque sur les One Hit Wonder du Wargaming.
Ah, ça pourrait être bon, ça. Ouais.
C'était parce que t'as parlé de 10e édition, j'étais comme shit, c'est vrai, j'en connais pas tant que ça.
Ben non.
Mais en même temps, je me suis dit, mais j'en connais beaucoup, je pense, des jeux qui ont juste fait une édition et qui sont morts pas longtemps. Ou qui sont sur le respirateur artificiel et que ça compte quasiment pas. Là.
Mais c'est ça. Mais je pense que quand tu sors de du monde de Game Workshop, il y a beaucoup de jeux qui n'ont qu'une édition et qui sont encore joués de nos jours.
Ben oui.
Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que là, il y a, encore une fois, c'est calme, il y a beaucoup de participants à l'édition, mais il a résumé ça un peu comme ça, puis il y avait plein de gens qui disaient qu'ils étaient d'accord avec lui, là, je trouvais ça intéressant. Ce qu'il disait, c'est que la première édition, si elle a du succès, va te permettre de voir les limites du jeu puis les défauts qui n'étaient pas clairs sur le papier. Donc, si elle a du succès, elle va être suivie par une seconde édition qui va te permettre de régler la majorité de ces problèmes-là, puis tu vas quand même rencontrer l'approbation des fans de la première heure, puis ça va comme cimenter ta base de jeu.
C'est vrai, ça a du sens.
Et c'est à partir de la troisième que ça peut devenir compliqué. Parce qu'en théorie, il reste moins de problèmes à régler. Puis là, ça se peut que tes changements, ça présente une nouvelle direction qui, là, peut aliéner une partie de ta base de joueurs.
Ouais, puis je pense... C'est quoi le problème que tu veux régler, tu sais?
C'est ça.
C'est, mettons, Games Workshop, c'est vraiment simple. Ils font de l'argent en te vendant des figurines. Tout le reste, c'est une excuse de te vendre des figurines. Que ce soit un roman, que ce soit de la peinture, que ce soit un livre de règles, que ce soit un codex, on s'en fout. Ils veulent te vendre des figurines. Un coup qu'ils t'ont vendu des figurines, ben, à un moment donné, le catalogue de figurines devient tellement grand, il faut faire des choix.
Mm.
Comment est-ce que tu fais pour balancer tes affaires, pour continuer à dire que tu veux proposer un jeu qui est balancé? Ben, t'enlèves des figurines dedans le setting de compétition. Comme par exemple, ce qu'on a vu dernièrement, dans la 10e édition, là, un petit peu, là, toutes les figurines de Forge World, de l'Eurus Hérésy, qui sont dites Legends maintenant, qui sont utilisables en match play, en open play, en narrative play, mais plus en tournoi. C'est justement ça. C'est le même principe qu'on avait avec Underworld. On avait déjà parlé dans l'épisode avec Max, là, qu'il y a des cartes, il y a des modes de jeu qui sont utilisables dans les tournois, mais que maintenant, il y a des cartes qui ne sont plus utilisables dans les compétitions. Parce que le but, c'est de garder un catalogue d'options plus restreint. Puis si on est honnête avec nous-mêmes, la meilleure façon de balancer un jeu, mettons que je donnerais les échecs comme étant un exemple, il y a deux options. Il n'y en a pas 48 par faction. Tu sais, à un moment donné, ils créent leur propre problème en sortant des nouvelles figurines qui doivent sortir des nouvelles règles.
Ouais.
Puis au bout d'un certain temps, ils t'ont sorti tellement de suppléments puis tellement de figurines pour chacune des factions avec des nouvelles règles qu'à un moment donné, ils ont créé leur propre problème. Fait qu'ils te sortent une nouvelle édition pour régler leur propre problème. Fait tu sais, quand je dis ils te présentent le changement comme étant quelque chose d'épique, c'est justement parce que c'est la meilleure façon de pouvoir dire comme « Salut, on a sorti tellement de trucs que là, on est rendu à devoir sortir d'autres choses pour pouvoir dire qu'on a sorti d'autres choses. » Puis c'est correct. C'était leur modèle d'affaires à eux. Mais je pense pas que c'est l'approche que, mettons, War Machine ou X-Wing avait pris. Mais je pense, que c'est de retrouver dans le même problème. Ce qui veut dire on veut sortir des nouvelles figurines, puis on leur sort des nouvelles règles. Et les nouvelles règles ne sont pas nécessairement en lien avec l'édition actuelle puis la force de l'édition actuelle. Donc, on a un problème, fait qu'il faut faire une nouvelle édition. Puis ça, ça fait mal quand ta fanbase n'est pas basée sur le recrutement, mais est basée sur la balance du jeu.
Oui.
C'est direct là, là. C'est, ta base, elle n'est pas de la même solidité. Parce qu'elle a des demandes, puis elle s'attend à être entendue. Puis c'est tout à fait correct. Mais ça n'a pas la même approche. C'est peut-être mon analyse un peu macro, là, puis je peux me tromper. Là.
Mais non, mais c'est super intéressant.
Ben là, on m'a assez entendu. Là. Peut-être que David. peut-être que Max ou Phil ont des affaires à dire là-dessus, là, pas juste moi. Là.
Non, c'est tes réactions qu'ils voulaient, on t'écoute.
C'était pour le premier point pour qu'il crache son poulet, moi, c'était ça.
C'était juste ça.
C'était juste ça qui t'intéressait.
Oui. Par rapport à ça, il y a John qui a soulevé l'exemple de Two Fat Lardies, ceux dont on aime beaucoup le nom. Richard Clark, qui se définit comme lui-même comme le chef suprême du collectif anarcho-syndicaliste.
Hein? Ouais. C'est des mots, ça?
Dans une entrevue, il l'a dit en anglais, mais c'était ça.
Ah, ben ouais. Okay.
C'est comme une blague. Lui, il est contre l'idée de plus qu'une.
J'avais mieux la jump de X-Wing de tantôt.
Ouais. Lui, il est contre l'idée de faire plus qu'une édition. Lui, il sort un jeu, il y a une édition, c'est fini. Puis après ça, il fait des reprints, des réimpressions. Voilà.
Okay.
Fait que chez Too Fat Lardies, la plupart des gens ont une édition, sauf quand c'est un auteur différent, où là, il peut avoir deux éditions. Il y a Général d'Armée qui va avoir une deuxième édition bientôt. Mais par exemple, Chain of Command de Richard Clark, ça fait 10 ans que ça existe, il est toujours sa première édition, puis il fait juste réimprimer la première édition.
Quand on parle réimprimer, on veut dire corrige des trucs encore ou genre les mêmes défauts qui étaient là au départ sont encore là puis fait avec?
C'est pas clair. J'ai l'impression qu'il doit corriger les fautes d'orthographe ou peut-être quelque chose qui n'était pas clair qu'il clarifie, mais sinon c'est la même édition.
Fait qu'on clarifie des choses, mais on n'améliore pas ou on ne modifie pas les règles.
Exact.
Intéressant.
Un contre-exemple que Graham nous a donné, c'est les règles Ancient de War Games Research Group, WRG. War Games, juste vous dire rapidement, fondé en 1969, c'est le premier éditeur de jeux de figurines dans les années 70, qui était c'était le premier dans les années 70-80. Donc, c'est lui qui dominait le marché avant Game Workshop en Angleterre. Eux, leurs règles pour l'Antiquité ont connu 7 éditions. C'est le plus proche que j'ai trouvé du 10. Puis la 7e a une version révisée et une version amendée.
OK.
Et changeait, selon Graham, fondamentalement le jeu. Donc, sur 20 ans, de 1969 à 1987, on a 7 éditions. Le jeu est encore joué aujourd'hui. Et Graham m'a dit qu'il a trouvé des traces, des mentions de parties jouées jusqu'en 2020 sur Internet.
Jusqu'à la pandémie, dans le fond.
Ouais, à peu près. Mais ça, c'est des traces de gens qui ont dit « j'ai joué ».
Oui,
il y a plein d'autres gens qui jouent encore, mais fait que ça, c'est fascinant quand même pour un jeu dont la dernière édition est en 87. Mais ce qui m'a expliqué, c'est qu'à la 6e édition, il y a eu un clash. Comme je disais, la 7e a changé fondamentalement le jeu. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont restés sur la 6e. Puis ils ont réimprimé la 6e. Okay. Par la suite. WRG a aussi ensuite publié The Bellis Antiquatis en 1990, qui reprend la même période historique, mais là, il présentait comme un tonique pour les joueurs blasés. Fait que, tu sais, ça m'a fait un peu passer ce move-là au move Warhammer Fantasy Age of Sigmar.
Genre, là, on shake l'univers au complet.
C'est ça. Ben, là, la différence, c'est que du historique, fait que l'histoire ne change pas, là, mais ils ont complètement fait un nouveau jeu avec des nouvelles règles, mais en réutilisant les mêmes figurines. En guillemets. Mais eux,
ils ont un jeu fantaisiste.
Mais ils ont un jeu fantaisiste à eux, que je ne connaissais absolument pas. Non, ils ont publié ça. Mais donc, eux, ils ont un truc à 7 éditions, mais sinon, la plupart de leurs autres jeux, on est dans les 2 ou 3 éditions. Puis ce qui était intéressant à l'époque, apparemment, la nouveauté qu'ils amenaient, c'est qu'ils faisaient des recherches historiques dans les documents pour baser leurs règles sur ce qui se passait réellement, donc que tu aies l'expérience le plus proche possible d'une bataille de cette époque-là.
Est-ce que tu mourrais du scorbut?
En 1970, ben, je pense pas, là, mais peut-être.
Hey, là, tu prends pour acquis que je sais c'est quoi 1970. Encore une fois, David, tu m'as beaucoup de capacités. Ah non, mais c'est cool, pareil. C'est nice de voir qu'il y a autant de... Il y a autant de jeux qui existent, c'est que tu nous le présentes souvent dans plein de capsules, mais en même temps, je me dis, mais à quel point est-ce que tous ces jeux-là existent depuis combien de temps, puis combien d'éditions? Puis oui, quand on est dans la bulle un peu Games Workshop, c'est facile de penser que des changements d'édition aux 3 ans, c'est normal. Puis là, tu as un jeu de genre 1970 qui est rendu à 7 éditions. C'est bien ça?
Oui.
Cette édition depuis 1970, on s'entend que Games Workshop qui est sorti en 1987 son premier Warhammer 40 000, on est quand même rendu déjà, c'est 17 ans de différence, puis on est rendu à 3 éditions de plus.
Oui.
Fait que, quand même. Ah ben merci David, t'avais-tu autre chose pour nous autres?
Non, c'était pas mal ça, c'était vraiment pour montrer que c'est un ovni, c'est du nouveau, c'est du jamais vu, un jeu a priori, si vous en trouvez, marquez-le dans les commentaires, là, un jeu qui prend 10 éditions, puis de voir comment ça peut, pourquoi ça se fait, pourquoi on se rend là, mais que pas tous les jeux qui se rendent là, c'est intéressant aussi, puis je pense que si, c'est pas possible que vous suiviez un jeu longtemps, puis qu'à un moment donné, vous dites, ah, on dirait que je suis plus rendu là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rien vous empêche de jouer, puis on va en reparler bientôt de Old Hammer, une ancienne édition qui vous fait le plus plaisir. Rien vous empêche d'aller explorer ailleurs, puis de revenir plus tard. Il y a des gens qui partent et qui reviennent.
Ben, il y a des gens qui jouaient les vieilles éditions de Warhammer 40 000. Là, je parle de genre, mettons, les gens qui jouaient la 5e édition, là, jusqu'à temps que la 10e sorte. Puis qu'en fait, comme pour vrai, moi, je suis sorti du lot pour la 6, la 7. La 8, j'étais un peu intéressé. J'ai essayé avec les index, c'était pas trop pour moi, je suis parti. À Cladis, là, j'ai envie de revenir. C'est ça fait que ces gens-là, ça fait 5 éditions qui sont plus là.
Ben oui.
Ouais.
Il n'y a rien qui est perdu. Vous pouvez quand même vous amuser avec vos amis.
Oui. Sauf si c'est David qui fait des jeux de mots pendant que tu manges du riz et du poulet. Là.
Là, tu peux pas tout avoir dans la vie.
Ah ben c'est déjà fini pour nous autres. Ben oui, ben on espère que vous avez apprécié l'épisode. Évidemment, comme d'habitude, on vous donne notre 100% plus du poulet puis du riz. si c'est le cas, ben gênez-vous pas. Ajoutez-nous sur Spotify, Balado Québec. Les épisodes sortent à chaque semaine ou presque, mais majoritairement. Partagez le balado, parlez-en à vos amis, à vos autres hobbyistes que vous connaissez. On a une page Facebook qui est Soirée Peinture Le Balado. C'est là-dessus qu'on partage des épisodes, des articles qu'on trouve intéressants, et ainsi de suite. On a Soirée Peinture, la communauté, qui est aussi l'endroit où on interagit beaucoup plus avec les gens, parce que les gens partagent leurs trucs, partagent les affaires de peinture, on discute, on a du fun. On a aussi soirée.peinture, qui est notre compte Instagram. Puis, n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires, écrivez-nous en message privé s'il faut, c'est pas grave. On aime ça pouvoir vous lire, on aime aussi savoir qu'est-ce que vous pensez des épisodes. Donc, on vous encourage fortement, laissez-nous vos commentaires. Sur ce, il nous reste juste une chose à dire. Max?
Excusez, on a enregistré plus tard que d'habitude.
David?
Une, c'est bien, mais 10, c'est mieux.
Pile!
Et une souris verte.
Oh!
Ça, c'était l'autre épisode d'avant, ça. Bonne soirée,
peinture. Magie du montage.
Faut que je trouve la maudite page.
Mais je suis pas sûr que j'ai envie de le laisser parler, Max. Si c'est pour lui donner raison encore, moi je pense pas que c'est bon que ça se
Oh, attends,
attends. Tu sais comment il est motivé, là?
Oh, oui.
Il est comme en laisse-moi de faire tomber la trappe.